Évidemment, tout d'abord aussi, meilleurs vœux à chacun d'entre vous. Et mes meilleurs vœux sont bien sûr pour vous comme pour moi, que nous soyons fermes dans la foi, que nous grandissions dans la foi, que notre vie soit à la gloire de notre Père Céleste, que nous soyons de fervents adorateurs, mais aussi que nous soyons des intercesseurs les uns pour les autres, des témoins du Seigneur pour nos contemporains, etc., etc. On pourrait faire une longue liste, et je ne sais pas si 31 millions et quelques de secondes suffiront, mais Dieu est patient, en tout cas, et on peut déjà commencer, ou continuer, à faire un petit peu de ce que Dieu effectivement nous demande. Et le Seigneur sera patient, il sera notre soutien par son Esprit vivant. Ce matin, je vous propose de nous replonger dans cette première lettre de l'apôtre Jean que nous avons abordée semaine dernière. Et la prédication a été enregistrée pour celles et ceux qui voudraient l'écouter, c'est sur le site de l'Église. Le passage abordé était tellement riche qu'un seul dimanche ne m'a pas suffi pour vous dire tout ce que j'avais à cœur. Et pour commencer, je vous propose de résumer rapidement ce que nous avons lu et dit semaine dernière, et on va relire donc dans la première épître de Jean, chapitre 2, les versets 12 à 14, pour commencer. « Je vous écris, mes enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, mes enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. » Cette première partie qui concerne l'Église, la communauté de chrétiens, dans sa diversité, et en particulier diversité en termes de maturité spirituelle, nous avons, semaine dernière, relevé trois caractéristiques mises en avant par Jean. Alors, je ne vois pas l'image, mais ça doit être celle-là. En lien avec la question « Qu'est-ce qu'un vrai chrétien ?» Et Jean expose trois choses. Premièrement, que le chrétien sait, et il le reconnaît volontiers, avec humilité. Et c'est en quelque sorte le premier jalon spirituel que ses péchés lui sont pardonnés. Clé de sa réconciliation avec Dieu et de sa vie nouvelle, sur de bases nouvelles. Deuxièmement, grâce à cela, le chrétien connaît Dieu. Connaissance nouvelle à la conversion et connaissance nécessaire et suffisante pour le salut. Plus besoin de parcours initiatique encore à venir, même si bien sûr notre connaissance est bien sûr appelée à grandir en lien avec notre croissance spirituelle. Mais c'est déjà, et dès le départ de notre vie chrétienne, une connaissance intime de Christ, le Sauveur. C'est lui que Jean nomme celui qui est dès le commencement, pour souligner son caractère éternel et donc divin. Et également une connaissance de Dieu, le Père, de Dieu comme notre Père, et on l'a chanté dans plusieurs chants dans la première partie de ce culte. Oui, le chrétien, au immense privilège, est de fait désormais fils ou fille de Dieu. Et troisièmement, en Christ, le chrétien est victorieux. Victorieux du mauvais, du malin ou du diable, selon les traductions. Un des aspects qui nous semble peut-être le moins flagrant, tant nous nous disons que dans bien des combats contre le péché, nous avons failli, nous avons fléchi. Nous n'avons effectivement sûrement pas de quoi fanfaronner en la matière, moi en tout cas pas. Mais Jean se veut vraiment encourageant dans ce domaine, sans être naïf. Nos péchés sont pardonnés, ceux d'hier, bien sûr, mais ceux d'aujourd'hui et ceux de demain aussi. Dieu connaît nos faiblesses, il n'est ni dupe ni ignorant, mais au contraire, il est aimant, il est patient et il nous fortifie et il nous transforme. Oui, il nous transforme et nous fait grandir par l'action du Saint-Esprit, nous sanctifiant. Nous avons vaincu, c'est comme ça que l'exprime Jean, par la foi. avec effectivement toujours une certaine notion de déjà et de pas encore. Courage, Jésus a déjà vaincu le monde, et c'est pour cela que nous aussi, par sa grâce, nous le pouvons et nous le pourrons. Merci de ton aide, Seigneur. Donne-moi la volonté de faire ta volonté. Et notre combat est désormais de proclamer cette victoire de Jésus-Christ. Comme je nous y ai encouragé semaine dernière, n'hésitons pas à faire ce bilan dans nos vies à la gloire de Dieu et de lui seul. Pardon des péchés, connaissance de Dieu, victoire sur le malin. C'est déjà un beau bilan pour lequel nous ne pouvons pas nous enorgueillir, mais pour lequel nous pouvons effectivement être reconnaissants. Oui, nous pouvons effectivement déjà faire ce bilan de manière objective, nous tous, ses enfants. Si du moins nous le sommes en ayant fait ce pas de foi nécessaire de placer notre vie entre les mains de Dieu, entre les mains du Sauveur, Jésus-Christ. À lui soit la gloire pour avoir tout accompli pour nous. Ça, c'était la partie encourageante pour l'Église, la communauté des croyants, quel que soit leur stade de maturité spirituelle. La partie suivante, ça veut plutôt être des avertissements par rapport au monde. On va lire versets 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair, le désir des yeux et l'orgueil de la vie, tout cela n'est pas du Père, mais du monde. Or le monde passe, et son désir aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez pas le monde. Tous ici, nous n'avons pas nécessairement la même connaissance de la Bible et son vocabulaire, alors je me permets de quelques précisions sur ces termes que Jean utilise. Désolé pour ceux qui le savent déjà, mais ça me semble important de lever les possibles ambiguïtés. N'aimez pas le monde. Certains n'ont pas compris comment ce commandement de ne pas aimer le monde pouvait s'accorder avec l'attestation de l'amour de Dieu pour le monde, exprimé également par Jean. Et je pense que ce verset-là, vous le connaissez aussi, dans Jean 3,16. On l'a rappelé à Noël notamment. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. N'aimez pas le monde, Dieu a tant aimé le monde. Certaines personnes ont donc rapidement conclu que la Bible devait se contredire, que la Bible n'était ni fiable ni vraie, mais vous savez effectivement que ce n'est pas le cas, elle est fiable et elle est vraie. Mais pourtant ce sont bien les mêmes mots, en français comme en grec d'ailleurs, que l'apôtre Jean utilise, mais pour exprimer des contraires. Le mot « monde », « cosmos », peut effectivement signifier trois choses différentes dans la Bible. Soit premièrement l'univers, au sens large, ce que nous, en tant que chrétiens, nous appellerions la création, soit deuxièmement la vie sur la terre, l'ensemble de l'humanité. Et c'est ça qu'on retrouve dans Jean 3,16. Dieu a tellement aimé l'humanité, les êtres humains, qu'il a fait ce qu'il fallait en se sacrifiant. Et soit troisièmement, comme ici dans cette épître, le monde dans le sens d'un système de valeurs, d'une vision de la vie qui s'oppose à Dieu. Le monde comme la société humaine organisée sans Dieu. Système qui englobe les intentions, les intérêts, les aspirations qui se trouvent dans l'humanité incrédule et même rebelle à Dieu. Il peut aussi y avoir une nuance de différence dans le verbe aimer, agapeo. Il y a de la part de Dieu un saint amour de la rédemption qui a pour but de sauver le pécheur. Et c'est ça dans Jean 3,16. Et c'est bien évidemment un amour très différent de l'amour égocentrique, voire égoïste, de vouloir participer à quelque chose dont le but n'est en l'occurrence que de prendre part au péché du monde. Ça, c'est le aimer de l'Épître. Et souvenons-nous aussi qu'aimer, au sens biblique du terme, est souvent bien différent de l'émotion, du sentiment amoureux, auquel il est souvent réduit de nos jours dans notre compréhension de ce mot aimer. Dans la Bible, l'amour est souvent et plutôt une ferme détermination de la volonté. Et c'est pour cela que le mot convient bien à la fois au commandement d'aimer, pardon, aimer Dieu, aimer son prochain, aimer son frère. Et ça correspond aussi à cette possibilité et cette interdiction d'aimer le monde. Faisons le choix, par notre volonté, d'aimer Dieu, notre frère, notre prochain, mais par contre de ne pas aimer le monde. N'aimons pas le monde. Si vous êtes comme moi, vous ne prenez pas nécessairement de bonnes résolutions au début d'année. Pas de nouvelles, en tout cas, avec le changement d'année. Michael a rappelé tout à l'heure que ça change vraiment entre le 31, 23h59 et le 1er 00h00. Il n'y a pas eu beaucoup de changements effectifs. Et nous savons bien que ce genre de choses, de toute façon, c'est un peu bidon, en tout cas très éphémère. Et je suis sûr cependant que nous sommes tous résolus, chacun et chacune d'entre nous, de ne pas vouloir vivre ce que Jean dénonce dans ce verset 16 notamment. J'en parlerai pas longuement donc, mais quand même un peu. Je ne dis pas que c'est facile de ne pas y être tenté, et même je dis que ce n'est pas facile de ne pas parfois y succomber. Ce serait mentir de vouloir le faire croire. Mais même si nous tombons parfois, même s'il nous arrive malheureusement de faire des choses selon les valeurs du monde, je suis persuadé, et c'est bien ce que Jean exprime, que c'est profondément à contre-cœur. Car c'est effectivement contre notre nouvelle nature d'enfant de Dieu. Comme l'écrivait l'apôtre Paul, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » C'est en Romains 7, verset 19. Ce n'est pas une excuse ou un prétexte que nous pouvons utiliser ou voulons utiliser, mais bien une illustration du combat spirituel qui peut faire rage par moments en chacun d'entre nous. Église et monde, chrétien et monde, deux complets opposés dans l'esprit et les écrits de Jean, et pourtant les tentations du monde touchent encore bel et bien l'Église. Nous touche encore personnellement, n'est-ce pas? C'est là où tout le monde lève la tête en faisant semblant de rien. Même si nous appartenons à Dieu, non, nous ne sommes pas encore parfaits, pas encore. Mais grâce à Dieu, nos écarts et nos chutes ne nous privent plus du salut. Le sacrifice de Christ qui nous a apporté le pardon était, lui, bel et bien parfait. Mais cela attriste Dieu. Et nous attriste aussi. Et si ça ne nous attruste pas, là on peut se poser des questions peut-être. Ce n'est pas pour sa gloire et ça perturbe notre communion et notre relation avec lui. Alors au plus profond de nous-mêmes, nous voudrions en être débarrassés parce que nous n'aimons plus le monde. Nous n'aimons plus le monde. Tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair, le désir des yeux, et l'orgueil de la vie, tout cela n'est pas du Père. Mais le danger d'être tenté et de tomber est bien là. Et c'est pour cela que Jean met ainsi en garde. Il mentionne de façon générique tout ce qui est dans le monde, mais il cite aussi trois aspects principaux vers lesquels le monde pousse. Premièrement, c'est le désir de la chair. Par cette expression, nous pensons peut-être instinctivement à débauche, dérive sexuelle ou autre. C'est sûrement inclus, mais sachons aussi que ce mot « désir » n'est pas toujours négatif dans la Bible. Les désirs émanant de notre nature humaine ne sont effectivement pas nécessairement mauvais. Désir de manger, de boire, de dormir, et même désir sexuel, émanent tous de Dieu qui les a placés en nous. Mais bien sûr, ils doivent être sous le contrôle de ses lois et de sa volonté. Et c'est là où ce n'est pas évident. D'autant plus que les normes du monde ont assurément beaucoup dévié et dérivé de l'idéal divin. La chair, ici, et ce n'est pas non plus le cas partout dans les Écritures, a aussi cette notion d'orientation des désirs de l'homme vers lui-même, indépendamment de Dieu. Et donc, bien sûr, lorsque ces désirs sont utilisés à des fins illégitimes, ou quand la chair se prend pour sa propre fin et veut s'affranchir de l'obéissance à Dieu, son Créateur, ou même carrément se rebeller contre lui, il est évident qu'alors cela ne vient pas du Père, mais bel et bien du monde. Méfions-nous en effet particulièrement de cette tentation de croire que nous pouvons vivre indépendamment de Dieu. Mensonge et folie. Dans ce désir de la chair, le problème principal est effectivement de vouloir se réaliser en soi-même, ou en tout cas en ailleurs qu'en Dieu, ce qui est évidemment un leurre, opposé à une communion étroite et constante avec Dieu, opposé à une saine dépendance de lui, ce qui est, nous le savons, la clé de la vraie liberté. Pas facile pourtant, même en tant que chrétien. Seigneur, merci de ton aide. Deuxièmement, le désir des yeux. On se déplace d'un problème plutôt intérieur vers le monde extérieur. Un proverbe dit, proverbe 27, verset 20, « Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme ne sont jamais rassasiés. » Les yeux de l'homme ne sont jamais rassasiés. Travers humain que de croire que notre bonheur, ou même peut-être plus modestement notre joie temporaire, dépend de la possession des choses que nous voyons. Nous savons que ce n'est pas le cas. Nous le savons, et pourtant. J'espère qu'avec les années, nous le comprenons mieux, en tout cas. Rappelons-nous aussi que dans les sociétés romaines et grecques, du temps où Jean écrit cette lettre, débauche et violence étaient souvent considérées comme des divertissements. C'est ce qu'on montrait au théâtre, c'est ce qu'on montrait dans les cirques. Mais bon, à bien y réfléchir, est-ce bien différent aujourd'hui? Jeux vidéo, internet, publicité, tout nous expose et nous excite à la convoitise. Je me souviens toujours, dans les souks de Marrakech, au Maroc, où j'ai été il y a une paire d'années, le leitmotiv, le slogan de tous les vendeurs, c'était « plaisir des yeux, plaisir des yeux ». Regarder n'engage à rien, en gros, c'est ce que ça voulait dire. Regarder n'engage à rien. Peut-être, mais c'est souvent le point de départ de la tentation, en tout cas. Ces tentations qui nous assaillent de l'extérieur ne sont pas non plus toujours faciles à gérer, et nous pouvons facilement être séduits par l'apparence des choses, plutôt que conscients de leur absence de valeur réelle, et j'entends par là valeur aux yeux de Dieu, plutôt que valeur commerciale. Non, ce n'est pas facile, même en tant que chrétien, là encore. Merci, Seigneur, merci de ton aide. Et troisièmement, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. En d'autres termes, la vanité, la prétention vis-à-vis des autres, notamment, chercher à impressionner ou à éblouir l'autre en se donnant de l'importance. C'est peut-être souvent la richesse matérielle qui est à la base du problème, mais pas que, il peut y avoir d'autres choses. Notre profession, notre statut social, notre notoriété, notre intelligence, notre apparence physique, le fait de faire semblant d'être ou d'avoir. L'être humain aime la comparaison et le paraître. Et même s'il craint le regard des autres, en même temps, il veut aussi l'attirer. Et on est tous comme ça, hein, mesdames, quand vous pomponnez le matin. Et nous, être humains, les hommes, quand on fait un petit peu gonfler les biscottos, c'est ça. On craint le regard des autres, mais en même temps, on veut l'attirer. Quel drôle de paradoxe. En tout cas, le danger peut être présent dans beaucoup de situations. Et un commentateur écrivait « Si mon image publique m'importe plus que la gloire de Dieu ou le bien-être de mes prochains, alors l'orgueil de la vie est devenu l'objet de mon culte idolâtre. » Il y a aussi dans cette une autre facette dans cette tendance au paraître, c'est celle de vouloir faire croire ou de croire soi-même, consciemment ou inconsciemment, que nous sommes quelqu'un de très capable, indépendamment de Dieu. Encore cette indépendance recherchée ou consciente ou inconsciente par rapport à Dieu. Oui, dans l'orgueil de la vie, il y a aussi ce risque d'une confiance présomptueuse et arrogante en ses propres ressources, quelles qu'elles soient. Avec une fausse estimation et de la stabilité, de la valeur des choses qui sont prisées par le monde. Esprit arrogant d'autosuffisance, vain sentiment de sécurité. Cette confiance, entre guillemets, nous éloigne de notre juste dépendance et donc de notre pleine et entière confiance en Dieu qui pourvoit et qui fait grâce. Désir de la chair, désir des yeux, orgueil de la vie. Trois choses qui ne viennent pas du Père et ne nous rapprochent pas de lui. En guise de bonne résolution pour 2020, fuyons-les et prions notre Père de nous en préserver. Il ne s'agit pas de faire des tabous par rapport à telle ou telle chose ou situation, mais bien de se demander, de lui demander à chaque fois, systématiquement, « Ô mon Dieu, mon Père, quelle est ta volonté ?» Lui demander et puis bien sûr s'y conformer ensuite. De toute façon, précise l'apôtre, et nous en sommes déjà convaincus, j'en suis sûr, mais ça revient sans cesse. Le monde et ses désirs passent. Le monde et ses désirs passent. C'est aussi un mensonge de l'ennemi que de vouloir nous faire croire le contraire, pour nous faire nous accrocher au monde, comme beaucoup le font désespérément. Le monde ne sera pas toujours là. Et même la fin du monde est déjà annoncée, quand Dieu l'aura décidé. Ces choses sont en cours de désintégration, dit en fait le verset 17, si on le lit dans certaines compréhensions littérales du texte. Par leur nature même, les désirs du monde, peut-être faut-il d'ailleurs là traduire plutôt convoitise du monde, sont autodestructrices. Si nous voulons bien le réaliser pour nous-mêmes, alors nous nous en écarterons volontiers. Et en contraste, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde n'est que transitoire, mais le chrétien, lui, a une éternité. N'est-ce pas également merveilleux de se le rappeler ? Le monde passe, mais nous sommes éternels. Il ne s'agit pas de se gonfler les pectoraux encore pour frimer, ça, mais vraiment se réjouir, être reconnaissant. Moi, ça m'émerveille en tout cas de m'en rappeler. Et cela devrait aussi, je pense, nous orienter dans tout ce que nous voulons faire, ce en quoi nous investissons, dans tout ce que nous valorisons. Réfléchissons toujours bien dans ce que nous faisons ou pensons à ce qu'est notre objectif et notre horizon. Est-ce le temporaire, l'éphémère, ou est-ce l'éternel ? Le temporaire ou l'éternel ? Là encore, Dieu et le monde diffèrent grandement. Passe la suivante, Pedro, s'il te plaît. Nous l'avons souligné, Jean aime les contrastes forts, les oppositions nettes et tranchées. Et j'ai essayé de faire ressortir cela entre l'Église et le monde, entre le chrétien et le monde. Mais nous ne sommes peut-être pas toujours très à l'aise avec cela. N'y a-t-il pas dans le monde certaines choses de valables quand même ? N'y a-t-il pas dans la société des choses positives ? Tout ce qui est dans le monde n'est pas du Père. Tout. Jean n'aime vraiment pas la nuance. Force-t-il le trait dans un effet de style pour appuyer quelque chose de fondamental, mais sans être nécessairement absolu ? Ou est-ce vraiment à comprendre de manière absolue ? Ça me paraît important d'y réfléchir et les avis peuvent varier, même parmi les chrétiens, il faut bien le dire. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'amour pour Dieu et l'amour pour le monde s'excluent mutuellement. C'est bien ce que Jean affirme, en tout cas, clairement, me semble-t-il. Mais pourquoi être si catégorique ? C'est vrai que notre société aujourd'hui n'aime pas vraiment l'exclusivité et n'aime pas l'absolu. Et en matière spirituelle en particulier. C'est vrai que depuis peut-être une cinquantaine d'années, je pense, le relativisme, notamment issu de cultures plus orientales, s'est insinué plus ou moins, et plutôt plus que moins, dans quasiment chaque recoin de nos concepts, de nos visions des choses et de nos visions du monde. Mais pourtant, dans la vision biblique des choses, c'est une vision très binaire que l'on trouve, très exclusive. Et c'est vrai que parfois ça nous dérange, mais c'est pourtant bel et bien ce que la Bible affirme et ce que Jean affirme. On est soit de Dieu, soit du monde. Il n'y a pas d'entre-deux. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Les verbes sont au présent pour vouloir signifier que ces amours, soit du monde ou soit du Père, sont bien deux principes directeurs qui gouvernent toute la vie et qui sont mutuellement exclusifs, incompatibles. Soit de l'un, soit de l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux, pas de neutralité, même pour les Suisses. Incompatibilité entre l'amour de Dieu et l'amour du monde. Aimer le monde, je le rappelle, c'est consciemment ou inconsciemment courtiser les faveurs d'un ordre rebelle à Dieu et donc refuser Dieu. C'est suivre les coutumes du monde, adopter ses idéaux, convoiter ses prix, chercher sa communion. Et donc, et je pense là plutôt inconsciemment que consciemment, chercher la communion avec toutes les forces et les influences hostiles à l'ordre divin qu'il y a derrière. C'est, je le rappelle, un constat anti-système. Le chrétien doit en quelque sorte être anti-système, contre le système du monde, mais ne pas confondre à être contre les gens qui sont dans le monde. Et ça, on a souvent du mal à faire la distinction entre les deux. Toutes les forces et les influences hostile à l'ordre divin qu'il y a derrière le monde. Nous n'aimons peut-être pas trop cela, moi le premier, parce que je ne veux absolument pas donner plus de place qu'il n'en a, mais derrière le monde, tel que nous l'avons défini tout à l'heure, Jean met systématiquement le mauvais, le malin, le diable, comme étant l'instigateur et l'initiateur de ces valeurs du monde. Nous ne devons pas aimer le système de valeurs qu'est le monde, car il est sous la puissance du mal, gouverné par Satan. Les mots sont forts, extrêmement forts même, mais pourtant ils ne sont pas d'un autre âge. Ils ne sont pas dépassés. C'est bel et bien une réalité spirituelle qui est mise en lumière par Jean dans ce passage et par d'autres bien avant lui dans la Bible, et cela perdure. Et c'est bien pour cela qu'il y a absolue incompatibilité entre le monde et Dieu, entre les ténèbres et la lumière, entre le mensonge et la vérité. C'est difficile pour nous de le saisir, mais le peu de bien, ou de bon, ou de vrai, que l'on peut effectivement ou éventuellement trouver autour de nous, ou dans ce que font ou sont les humains, ce n'est pas le fruit du monde, mais c'est une subsistance de la grâce commune de Dieu. Du fait que Dieu n'a pas totalement abandonné et rejeté le monde à lui-même. Et bien heureusement, parce que même si Dieu laisse à l'ennemi beaucoup de marge de manœuvre, si Dieu lui laissait toute la marge de manœuvre, et bien le monde ne serait déjà plus, le monde serait déjà un chaos total. Donc oui, effectivement, on peut voir encore un peu de beau, un peu de bon, un peu de vrai, de manière visible chez nos contemporains, dans certaines choses de la société, mais ça ne vient pas du monde lui-même, ça vient de Dieu qui permet que sa grâce continue de faire tourner la planète. Il ne peut pas y avoir un quelconque compromis, pas une quelconque compromission possible entre le monde et nous. Ce genre d'affirmation gêne certainement nos contemporains et nous gêne peut-être aussi. Mais c'est, je pense, parce que Satan veut effectivement brouiller le message et soit faire croire qu'il n'existe pas, et je pense qu'il y est arrivé dans l'esprit de beaucoup de gens, en tout cas qu'il n'est pas derrière le monde, ou même carrément, il essaye de faire croire que c'est Dieu le méchant, que ce sont les chrétiens les méchants, c'est eux qui excluent les autres. C'est Dieu qui est sectaire. Mais ne nous y trompons pas, le menteur, c'est Satan, c'est lui. Le méchant, c'est lui, est vraiment très méchant, puisqu'il veut aveugler et perdre. Il veut que le monde, dans le sens de l'humanité cette fois-ci, périsse avec lui. Il sait qu'il a perdu, il sait qu'il est perdu. Mais un peu comme un kamikaze, voulant se faire sauter, perdu pour perdu, il veut entraîner le maximum de monde dans sa chute. Nous ne pouvons pas édulcorer cette vérité. Et je ne suis pas un fanatique ou un illuminé en le rappelant, mais je pense juste un réaliste, un spirituellement réaliste, averti, en toute humilité. Bon, pour être franc, je ne sais pas si nous devons affirmer ou exposer cet absolu de manière aussi brutale face à nos contemporains, mais peut-être même je pense que dans la plupart des cas, on ne doit pas le faire de cette façon-là, mais nous devons assurément user de sagesse et de discernement, d'amour, mais quoi qu'il en soit, jamais de dissimulation ou d'édulcoration du message, d'atténuation du message. Ce que Dieu veut mettre en avant, c'est la bonne nouvelle, je l'ai déjà souligné plusieurs fois, ce que Dieu veut mettre en avant, c'est la bonne nouvelle, sa main tendue à l'humanité, sa solution au problème de l'être humain, pas la mauvaise nouvelle, même si les deux vont bien sûr ensemble. Ainsi, surtout, n'oublions pas qu'il est toujours temps de grâce, encore temps de pardon et de réconciliation. La victoire de Christ peut encore permettre la victoire de nombreuses personnes dans leur vie. Le pardon des péchés est toujours offert, toujours d'actualité. La connaissance de Dieu est toujours possible. Personne n'est à ce jour contraint de rester englué dans le monde. Non, Dieu veut sauver encore et toujours. Nous devons être conscients du rôle du malin, mais nous devons aussi
savoir s'il faut écrire T ou TH. On pourrait demander.
Ah bon? Il y a des interférences, mais je vais quand même continuer. Oui, nous voulons annoncer qu'il est toujours temps de grâce. Les épîtres ont été écrites pour contrer des hérésies la plupart du temps. Et on peut remarquer, à travers cet épître de Jean notamment, que c'est rarement des choses frontales ou des oppositions qui rejettent toute la foi biblique. C'est plus souvent un mélange subtil de demi-vérités et de demi-mensonges. Pensée effectivement biblique et pensée du monde. Mais ce genre de mélange, c'est le plus dangereux, je pense, et c'est ce contre quoi nous devons être vigilants pour l'Église et pour notre foi personnelle. Pour nous motiver, pour cette année, je clôturerai simplement en relisant quelques versets juste tirés d'une prière de Jésus, prière de Jésus pour ses disciples, que l'on trouve dans l'évangile de Jean, justement, au chapitre 17. Jean, chapitre 17, verset 14, « Je leur ai donné ta parole, » et Jésus parle ici de ses disciples, hein, « et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Et la prière de Jésus, c'est « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. » Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, c'est ta parole qui est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Verset 19. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, donc là il parlait des 12 apôtres, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Et nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes les bénéficiaires de ce témoignage qui au fil des siècles s'est propagé. Nous sommes parmi celles et ceux pour lesquels Jésus a prié, et prie encore d'ailleurs. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'a envoyé, pour que le monde croie que c'est toi qui m'a envoyé. Soyons reconnaissants de ce privilège de connaître Dieu et mettons vraiment en œuvre cette mission que nous avons de témoigner autour de nous cette année et les années à venir encore pour que le monde croie que Jésus-Christ est bien celui que Dieu a envoyé pour notre salut. Amen. Je vous invite à quelques instants de réflexion avant de prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour le privilège de te connaître. Nous voulons te remercier pour le privilège d'avoir ta parole entre nos mains pour pouvoir l'étudier, comprendre qui tu es et comprendre ce que tu attends de nous. Il nous est parfois difficile de comprendre et d'accepter qu'il n'y a qu'une seule vérité, qu'il n'y a qu'un seul chemin pour te trouver, pour être sauvé. Le monde nous dit tout l'inverse, et c'est vrai que des fois on peut se demander, se poser la question. Toi tu affirmes que tu es le seul chemin. Et en tout cas ta main tendue, tu ne la donnes pas à une élite, à des gens particuliers, mais tu veux vraiment offrir ce salut à chacun et à chacune. Aide-nous à être ces témoins, pour faire connaître effectivement cette possibilité de libération du péché, pour faire savoir autour de nous que nous pouvons te connaître et que ça change la vie. Oui, et nous, Seigneur, en tant qu'Église, à ne pas nous refermer sur nous-mêmes en disant « nous avons la vérité, et tant pis pour les autres », mais vraiment à la vivre, à la partager. Et ça sera vraiment un vecteur de ton amour. Mais nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Besoin de ton aide pour ne pas nous refermer sur nos certitudes et nos vérités, mais vraiment pour ne pas avoir peur d'aller dans le monde, de rester dans le monde, de nous confronter au monde pour être ces lumières et ce sel que tu attends de nous, que tu demandes de nous. Aide-nous à être humbles, Seigneur. Ce n'est pas nous qui apportons la vérité, mais c'est simplement nous qui annonçons que tu es la vérité. J'ai besoin de ton aide, Seigneur, pour y arriver cette année, pour y avoir envie cette année. Et je te prie de bénir chacun et chacune ici présente ce matin. Tu connais où chacun en est par rapport à toi. Que ceux qui te connaissent déjà se réjouissent de pouvoir t'appeler Père, de pouvoir être en communion avec toi. Que ceux qui sont encore en recherche, Seigneur, tu te dévoiles à eux. Tu te fasses connaître. Qu'ils puissent vraiment te découvrir et marcher après en nouveauté de vie. Oui, je te loue et je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu as fait à la croix, tout ce que nous pouvons expérimenter. Et merci pour ces encouragements et en même temps ces avertissements de l'apôtre Jean. Donne-nous d'être vigilants, de ne pas nous laisser avoir, entre guillemets, par Satan et ses ruses et ses mensonges. Nous voulons, Seigneur, oui, connaître et vivre toujours davantage ta vérité, et la partager. Merci pour toutes tes grâces encore en Jésus-Christ. Sois béni, loué, remercié pour ce que tu fais pour nous et parce que tu n'es pas un Dieu lointain parti en vacances ou qui se désintéresse de nous. Non, tout, bien au contraire. Tu veux vraiment, non pas par une malsaine curiosité ou pression de ta part, tu veux vraiment développer une communion, une relation vivante entre toi et nous. Quel privilège de le vivre, quel privilège de le connaître. À toi toute la gloire. En Jésus-Christ. Amen.